Voilà, bonjour. Je vous invite à laisser résonner un petit moment ces paroles qu'on a entendues de divers orateurs, oratrices. Oui, Seigneur, merci parce que tu as choisi toujours de parler au travers d'hommes et de femmes dans une réalité bien concrète qui fait miroir à nos réalités. Et merci Seigneur parce que tu es un Dieu agissant, tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui rencontre, tu es un Dieu qui pique notre chemin et qui l'éclaire. Et je te prie maintenant d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos yeux de foi pour comprendre les mystères de ton royaume. Je te prie, Seigneur, de faire taire en nous ce qui nous encombre, qui crie mais qui ment, pour entendre la voix de ton esprit qui ouvre, qui stabilise, qui sauve. Amen. Alors voilà, quand on m'a demandé il y a quelques mois de conclure le chemin qu'on a ouvert ensemble avec Christophe, eh bien c'est vrai que c'est avec plaisir, mais aussi avec tremblement, de se retrouver devant vous, de se retrouver un peu plus haut aussi, vous avez bien travaillé, c'est sympa. Et c'est vrai qu'une parole qui m'a saisi par rapport à ces bilans, c'est de se concentrer sur la moisson, et pas trop se concentrer sur les mauvaises herbes qui restent dans le champ. Et c'est vrai que quand Christophe est venu, moi je faisais ce grand écart entre les 12-13 ans et les presque 99 ans, là je vieillis un petit peu Roger, mais c'était difficile d'être polyvalent à ce point. Et Christophe est venu nous aider dans l'équipe, je crois en 2008, tu as dit 2009, c'est vrai, mais je crois que c'était en 2008, il a fait 5 ans, enfin il me semble, ouais, ça a 5 ans. Eh bien, c'était touchant de voir son air qui vient comme cela. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touché personnellement avec Christophe, c'était qu'il était aussi le pasteur de nos enfants. Et j'étais très touché de voir de quelle manière il est rentré dans l'intimité de notre famille, de quelle manière il a accompagné nos enfants, de quelle manière on a pu oser aussi partager nos défis dans une confidentialité, une confiance qui était très touchante. Et je vois en Christophe quelqu'un que Dieu a levé et placé dans notre société, et pas seulement dans l'église locale. Et quand on parle d'un ministère qui continue à Lausanne, je le crois vraiment, parce qu'il a vraiment cet appel de Dieu d'être à l'écoute de l'autre et de le lancer dans la vie. Et pour ouvrir la Bible dans ce temps de bilan, c'est toujours un petit peu difficile, ben, les choses me sont venues, c'est de prendre une ou deux paraboles. Et ces paraboles, moi je les aime beaucoup parce que Jésus a réussi à dire des choses très profondes avec des mots que tout le monde comprend. Il a laissé de côté le vocabulaire de la Louis II 1910. Il a accepté que les gens qui étaient en face de lui n'étaient pas catéchisés alors qu'ils le devraient. Et il a pris des histoires de la vie toutes simples pour raconter le royaume de Dieu. Et ces histoires, bon, on doit trouver la pointe, mais elles sont belles. Et c'est des histoires qui racontent ce royaume, qui racontent son royaume. Et ce que j'aime bien aussi avec ce royaume de Dieu, c'est qu'il est en-dessus de tout, il est partout. Il est partout dans ma vie, il peut aller partout dans ma vie, mais il est partout et il est partout dans toute l'humanité. Le royaume est cette gouvernance de Dieu. Alors qu'on est bombardé par le multimédia et autres annonces qui disent toujours ce qui ne va pas, on oublie ce royaume qui travaille, qui est là. Hors aussi de l'église locale, mais que l'église locale est son premier représentant. Alors ces trois paraboles que j'ai choisies, c'est celle de l'ivraie, du grain de moutarde et celle du levain. Et comme bilan pour le ministère, je trouve intéressant de voir comment Jésus parle de son ministère. Et compare, je prends les deux dernières, le grain de moutarde, qui est un petit grain, le texte le dit, c'est la plus petite graine connue des plantes potagères qui fait la plus grosse plante. Et en fait, l'idée du grain de moutarde, c'est de dire, mais c'est tout petit, c'est insignifiant, c'est pas attractif, c'est pas séduisant, Mais voilà que quand il pousse, il devient quelque chose d'influent, quelque chose qui change l'environnement, quelque chose qui peut être utile à l'autre. C'est ces animaux, ces oiseaux qui viennent se réfugier. Oui, ça devient une bénédiction pour d'autres. Peu attractif au début, il crée la surprise et fait la différence. Et puis la dernière des trois paraboles, j'ai choisi celle du levain, elle est aussi un petit peu comme cela. Mettez un petit peu de levain dans la farine, mélangez, puis essayez de trouver où est le levain. Impossible. Alors que le levain influence toute la pâte. Et là, on a une idée aussi du royaume de Dieu dans sa puissance. Et je trouve très important de confronter ces deux images très simples avec toute la liste de choses qu'on nous bombarde qui ne va pas. Avec la liste de choses qui montent en nous en émotions négatives. Voilà que le royaume de Dieu est quelque chose qui travaille, quelque chose qui est là, discret, à peine visible, mais qui avance. Et dans les trois paraboles, en fait, ce que Dieu veut dire, c'est quel que soit ce que nous voyons humainement, ce que lui a décidé de faire, il le fait. Envers et contre tout. Celui qu'il a décidé de faire, il le fait. Envers et contre tout. Et la dernière parabole qu'on va lire, que je m'arrêtais plus longuement dessus, c'est celle de l'ivraie, qui est chronologiquement la première que Jésus cite. Il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume de cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Et lorsqu'il poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Mais Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il répondit, « C'est ton ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous l'allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors dans cette parabole agricole, qu'est-ce que dit Dieu? Eh bien, ce monde qui est là, ce champ, c'est toute l'humanité. Le semeur, c'est Dieu qui annonce sa parole. L'ivraie, même famille que le blé, mais toxique, c'est l'ennemi qui intervient. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique en fait, de combat entre des personnes, l'idée était que si quelqu'un voulait faire un sale coup à son voisin, il allait semer de l'ivraie dans son champ, de nuit. Et puis les serviteurs qui sont scandalisés par ça, c'est les croyants qui sont au service de Dieu. Et voilà que la moisson, c'est peut-être la fin du monde. Et une chose intéressante dans cette parabole qui est dit, c'est « Mais concentrez-vous sur la moisson, concentrez-vous sur l'action de Dieu dans vos vies, concentrez-vous sur ce que je fais, ne vous concentrez pas sur l'action de l'ennemi. » Oui, c'est là. Oui, c'est vrai que c'est une injustice. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Et dans cette parabole, on voit qu'il y a une globalité dans l'action de Dieu, mais on voit aussi qu'il y a une globalité dans l'action de l'ennemi. Mais Dieu n'est pas arrêté par ça. Dieu n'en fait pas une grande histoire. Dieu nous invite à lui faire confiance. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles. Oui, c'est vrai que dans tout ce que j'ai pu faire, tout n'a pas marché. Oui, c'est vrai que dans tout ce qu'on a planifié, peut-être qu'il y a de l'échec et qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas ça le problème. Gardez les yeux sur la moisson. Et le royaume de Dieu peut agir même s'il y a de l'opposition. Le royaume de Dieu n'est pas bipolaire. Il n'a pas besoin d'éradiquer toute l'opposition pour faire quelque chose. Il peut le faire malgré tout. Il a le dernier mot. Et je pense que c'est bien dans un bilan de ministère, en tant que communauté, mais aussi en tant que personne, pour Christophe, de se rappeler cela. De ne pas se concentrer sur ce qui était difficile ou ce qui n'a pas joué, mais se concentrer sur le fait que l'Évangile a été semé. Se concentrer sur le fait que des jeunes ont été touchés. se concentrer sur le fait que cette parole donnée à ces jeunes et ces exemples donnés, ce temps donné va porter du fruit, va porter une moisson. Et j'ai beaucoup aimé dans l'article dans Marchons Ensemble que Séverin Abbé a dit, alors moi je le cite, vu qu'il ne voulait pas se répéter, moi je le cite, mais j'ai trouvé très bien cette synthèse du ministère qui dit, je cite Séverin, « Ce type d'engagement dont l'accompagnement personnel ne se mesure pas avec des normes de management modernes, mais à la seule dimension du cœur que tu as mis, Christophe, et aux fruits que Dieu nous permet parfois de voir de notre vivant. » Et c'est le ministère qu'on fait chacun pour Dieu, et dans ce contraste-là. Donc c'est vrai qu'on doit rester dans cette confiance que ce qui a été fait, Dieu veille, Dieu arrose, Dieu prend soin dans le cœur des gens. Mais c'est vrai que dans mon cheminement avec Christophe en tant que collègue pasteur, puis aussi après dans les instances de la FRE, j'ai aussi entendu Christophe qui se posait des questions, qui était aussi compressé par un système exigeant, par des attentes exigeantes d'une église locale, des attentes exigeantes du titre de pasteur, hein, qui est des fois difficile à gérer. Une exigence aussi d'être généraliste, de devoir être bon à peu près partout, alors que Christophe se trouvait plus un spécialiste de certaines choses. Et c'est vrai qu'à Vevey, puis à Launay, puis à Elim, à l'Oasis, et ici, en Christophe qui s'est donné, qui est resté lui-même, mais on a aussi eu en Christophe en souffrance, en questionnement. Et moi j'avais à cœur ce matin, plutôt dans mon rôle des instances, vu que je ne suis plus serviteur ici, de te demander pardon pour ce poids qu'on a mis sur toi. Pas un poids venant de Dieu dans le ministère, mais un poids de la vie associative, un poids des attentes qu'on attend sur un homme, un poids qui est là et qui était difficile pour toi. Et je crois qu'on a à réfléchir en tant que plus âgé comment ouvrir des chemins nouveaux pour que des vocations nouvelles puissent se lever avec plus de liberté, avec moins de joug, pour qu'on puisse avoir un plus grand rayonnement. Et je crois que là, on a à réfléchir en tant qu'instance de la FRE. Mais pour toi, Christophe, moi, je t'invite à continuer de semer avec confiance. Ne te laisse pas impressionner par le mal. Et c'est vrai, dans le travail social que tu vas faire, tu vas être face au dysfonctionnement de la société avec tout ce que ça veut dire. Concentre-toi sur l'action de Dieu. Rappelle-toi que chaque jeune que Dieu te confie, Dieu l'aime, il a une destinée pour ce jeune. Et même si tu ne peux pas citer le nom de Dieu, discerne ce qu'il veut faire pour ce jeune. Et je crois que Dieu t'envoie dans ce sens. Alors à la moisson, et ça les agriculteurs le vivent, on oublie les mauvaises herbes, on oublie les parties du champ qui ont été inondées, on oublie tout ça, on se réjouit de la récolte. Et je crois que Christophe, réjouis-toi de la récolte, du travail fait ici, réjouis-toi des futures récoltes qu'il y aura dans la suite de ton ministère, dans le cadre de la vie de Lausanne. Mais c'est vrai que cette démarche de choisir est une démarche de confiance. Et le vrai combat, c'est de faire confiance. Et on l'a senti dans tout ce qu'on a déjà vécu aujourd'hui. Une chose est vraie, c'est que Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Et même s'il y a beaucoup de choses que nous traversons qui est contraire à ce que nous avons besoin, qui nous envahit, ça ne change pas ce fait que Dieu est avec nous et il n'est pas contre nous. Ça ne change pas le fait que Dieu domine les choses difficiles que nous traversons, aussi graves soient-elles. Il reste le souverain. Ce texte nous le rappelle. Et même, il transforme en bien les choses difficiles que nous traversons. Il les transforme à notre avantage. Il les transforme surtout à son avantage, dans le sens que dans la manière que nous gérons nos difficultés, dans la manière que nous gérons nos échecs comme nos réussites, nous manifestons le royaume de Dieu autour de nous, et nous venons ces branches dans lesquelles les oiseaux peuvent se reposer. Alors c'est vrai que souvent il y a cette prière, et je l'ai entendue avec d'autres mots dans tes questions, mais mon Dieu, je ne comprends pas, on ne comprend pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais on peut choisir de lui faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'il est avec nous. Et c'est vrai que c'est ça le combat, quelquefois, quand nous traversons des difficultés, c'est que ces difficultés prennent une telle autorité qu'on ne voit plus Dieu. Et humainement, on est envahi par cela. Est-ce que Dieu nous demande de faire face à ces difficultés paraît impossible? Dieu nous demande toujours l'impossible. Mais le premier pas en direction de cet impossible, il est possible. Prenez David. C'était impossible pour lui de couper la tête de Goliath. Mais c'était possible pour lui de lancer une pierre. Prenez Josué. C'était impossible avec son ramassis d'esclaves de vaincre Jéricho. Mais c'était possible de marcher autour. C'était impossible pour Moïse d'ouvrir la mer Rouge. Mais c'était possible de taper avec le bâton dessus. Dieu nous appelle à faire des choses impossibles. Quelque part, ce travail de faire confiance en sa moisson, malgré le mal qui sévit autour de nous, malgré les doutes qui nous rongent, ça c'est impossible. Mais de lui faire confiance, faire un premier pas dans la direction de ce qu'il nous appelle, ça reste possible. Et moi je vous invite à rester dans cette démarche de confiance. Avec l'ivraie, les serviteurs étaient tentés de centrer sur le problème, de même d'éradiquer cette ivraie. Dieu, le maître leur a demandé quelque chose de possible, d'attendre. Il leur a demandé d'attendre. Ça, c'était possible. Et je crois que dans ce sens, gardons cette confiance, malgré les défis qui sont sur nos vies, de rester confiant que ce que Dieu nous appelle est possible, même si la montagne à déplacer nous semble impossible. Et c'est vrai là que je fais une petite parenthèse parce que Claude m'en a demandé par rapport à l'évolution du Gospel Center. C'est vrai que pour nous, on avait des défis énormes de bâtiment, qui était une montagne. Et j'ai justement reçu ce texte de la mer Rouge. La mer Rouge qui était devant nous, c'était cette mer Rouge qui devait s'ouvrir, c'est de trouver des bâtiments pour une assemblée de 200 à 300 personnes. L'armée égyptienne qui nous courait derrière, c'était les délais. Pour nous, la ligue se fermait le 30 juin. Et le 15 mai, on n'avait toujours rien. Mais on avait cette confiance que Dieu ouvrirait quelque chose. Et Dieu nous a ouvert quelque chose qu'on n'y avait pas pensé. Bon, à force de quadriller la ville, on connaissait à peu près toutes les solutions. Beaucoup de refus. Mais tout à coup, une salle s'est ouverte. On ne l'avait pas du tout vue et pensée, pas du tout dans le style qu'on a comme église. C'est la salle des 22 cantons à la gare de Lausanne. Et tout à coup, Dieu nous place là. Et dans le cœur corps de Christ lausannois, tout à coup, il nous place en endroit où il y a du passage au niveau du canton. En endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent. En endroit qui n'est même pas un quartier, c'est une gare. Mais c'est un endroit où spirituellement, on a quelque chose à faire. Alors voilà, on va commencer à 18h dans une semaine là, avec beaucoup de tremblements. C'est aussi des défis financiers. Est-ce qu'on est prêt aussi spirituellement à relever ce défi? Mais avec cette idée que tout à coup, c'est vrai qu'on a tapé sur la mer Rouge, on a cherché des salles et on a prié, on a demandé conseil, et puis c'est Dieu qui a ouvert. Et on a vu la faveur de Dieu dans les négociations. Je ne suis pas sûr que aussi le directeur du buffet de la gare se rencontre qui il a invité. Mais enfin, on verra. Mais pour dire que notre combat, c'est de faire confiance. Notre combat, c'est de rester dans cette position, Dieu est avec nous, il n'est pas contre nous. Et c'est vrai que dans ma vie, je vois ce qui a limité Dieu, ce n'est pas tellement mon manque de compétence, ce n'est pas tellement les épreuves qui m'ont touché, ce n'est pas tellement la mort qui a frôlé des membres de ma famille, ce n'est pas ces circonstances-là qui ont limité Dieu. Ce qui a limité Dieu, c'est mon manque de confiance en ses promesses, en son amour, un manque de confiance qu'on appelle là, dans la Bible, l'incrédulité. Alors pour terminer, j'aimerais finir avec trois textes qu'on va simplement lire. Le premier, c'est le psaume 126,5, qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie, pour montrer que le travail à la suite du Christ n'est pas toujours simple, mais en obéissance avec lui, Une moisson vient, une moisson est préparée, on la verra. En deuxième texte, Jean 4, 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, moi je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Levez les yeux et regardez. Arrêtez de regarder toujours l'ivraie, les problèmes, les choses qui ne vont pas. Levez les yeux. Église de Villard, levez les yeux. La moisson est là. La moisson est là. Levez les yeux. Donc on choisit de se concentrer sur le travail du Seigneur. Et pour terminer, j'aimerais lire ce dernier texte, Ésaïe 55, les versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il pas de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Je vous invite à vous lever. On va prier. Je demande à Claude de me rejoindre pour reprendre la suite. Oui, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui agit dans nos vies, qui, avec nos lignes courbes, tu écris droit, qui est fidèle à ta parole. Je te remercie, Seigneur, parce qu'au travers de tous nos services pour toi, à nous tous, et ce n'est pas seulement les pasteurs, nous tous les chrétiens qui te servons là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous passons nos loisirs, là où nous sommes en relation, là où nous avons des fonctions dans la société, partout là où nous sommes. Merci parce que ta parole agit. Et même si on ne cite pas ton nom, mais qu'on vit avec tes valeurs, toi avec ton souffle, comme ce levain qui fait lever la pâte, tu agis, tu es un Dieu agissant. Et je te prie, Seigneur, pour cette église locale, comme pour chacun de ses frères et sœurs, je te demande, continuez de souffler sur eux, continuez de favoriser la moisson, continuez, Seigneur, ton œuvre profonde, pour que tu puisses te manifester au travers de chacun d'eux. Je te le demande, au nom de Jésus. Amen.